Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
On les a vus lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu les Jeux. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leurs exploits, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces sportifs. Je suis Arnaud Di Pasquale, ancien tennisman et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Aujourd'hui, dans Olympic Legends, j'en reçois trois, une handballeuse et deux handballeurs de renom, Alison Pineau, Jackson Richardson et Jérôme Fernandez. Je suis chanceux, très heureux de vous recevoir. Salut à tous les trois.
Bonjour Arnaud.
Salut, salut. Alors, je vous le dis tout de suite, l'idée c'est de faire comme si on était tous ensemble dans un canapé, avec un petit verre, et on se raconte nos anecdotes. C'est vraiment l'esprit. Ouais. Première question, très simple. On parle de médaille olympique. Elle est où la vôtre ou elles sont les vôtres? Elles sont où? Vous en avez fait quoi?
Honneur aux femmes.
Honneur aux femmes, Alison.
Pour ma part, sont à la maison, chez maman.
Un endroit un peu visible, pas du tout. C'est maman qui s'occupe de ça ou...
Ouais, c'est maman qui s'occupe de ça. Elle a acheté une vitrine où elle a exposé toutes les médailles et les trophées depuis que je suis toute jeune.
Et vous?
Moi, c'est pareil. Je suis maman, je suis ma mère. D'accord. Moi, j'ai pris l'habitude de les montrer. Et comme elle voyage 13 000 km, alors j'ai du mal à revenir avec. Alors du coup, elle les garde tous.
Et toi, Jean? C'est, ne me dis pas maman aussi, enfin, tu vois, à un moment c'est bon. Faut non, changer là, faut changer.
J'ai un peu cassé l'ambiance, mais j'ai plus mes parents. Ouais. Donc,
ah mince, voilà. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas me la poser parce que c'est pareil. Donc tu vois, tu sais quoi.
Non, mais moi, mes médailles, elles sont toutes ensemble et je les ressors de temps en temps pour les montrer à des enfants quand je vais dans des écoles par rapport aux semaines olympiques ou sur des camps de hand, etc. Pour leur montrer qu'ils les touchent et que ça leur donne envie de pratiquer le handball et de rêver comme nous on a rêvé quand on était gamin, quoi. Voilà.
Moi, il m'était arrivé un truc un peu bizarre et je le raconterai pas à chaque podcast parce que forcément sinon ce serait un peu redondant. Ma médaille, je l'ai perdue pendant un an. Je sais pas si ça peut arriver de perdre une médaille pendant un an, mais je l'avais confiée à personne, comme quoi. Non, mais c'est chaud, je sais. Et pourtant, c'est les Jeux, pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est l'événement sur lequel je me suis le plus éclaté sportivement parlant. Et pendant un an, plus de médailles. Je pensais que c'était un pote qui l'avait chouré suite à une soirée un peu arrosée, qui avait fait le con avec et qui était reparti avec. Donc, je me suis toujours dit ça. Et un jour, je suis en train de commenter à Roland. Et j'ai ma femme qui m'appelle, qui est avec mon fils et qui est au musée à Roland et qui me dit « Écoute, je crois que ta médaille, en fait, elle est au musée à Roland. » Ça faisait un an que je la cherchais. Ça devait être le lendemain de la soirée que j'avais dû donc certainement l'amener et signer une décharge en plus avec. Zéro souvenir, voilà, de l'avoir laissée. Et donc, c'était bien celle-là. Elle était bien au musée. Je l'ai récupérée. Elle est maintenant à la maison.
Ça veut dire que tu as bien fêté ta médaille.
Alors, écoute, on va en parler de tout ça parce que la médaille,
non,
ça
non,
se fait.
Non,
non, si, vous êtes obligé aussi. Attendez, le handball, machin. Il y a des noms super, les bronzés, les barjots, les costumes. J'espère quand même que vous allez nous raconter tout ça aussi. Ah bah ouais, attends, c'est l'esprit. Non, mais justement, donc, par rapport à ça, le hand, et on va parler, donc le pionnier, c'est toi quand même, Jackson. Donc, on va commencer par toi.
Le vieux, c'est ça? C'est ça que tu veux dire?
Le quoi?
Il a dit pionnier. Il a dit pionnier.
Le vieux.
J'entends pas, ça coupe.
Ouais,
non, j'ai dit pionnier.
Tu as été poli.
J'ai pas été poli. Voilà, pas du tout.
Pionnier pour être poliment dit, c'est ça? D'accord. Bah, non, mais je l'accepte.
Pas du tout. Il y a du lourd. À vous trois, je crois qu'il y a 11 Olympiades. Je crois que 4 et 4 pour les garçons et 3, je crois, pour toi, Alison. C'est quand même énorme. C'est au programme des Jeux depuis 72. Et la première fois que vous y êtes, c'est en 92.
Ça doit
représenter quand même quelque chose d'assez fort, j'imagine. Je ne sais pas comment tu les vis, d'ailleurs, ces Jeux, pour commencer.
Non, c'est vrai que la première fois, le handball était aux Jeux Olympiques. Après, comme pour tout athlète, en tant que sportif, en tant que gamin, on regarde les Jeux Olympiques à la télé, on découvre les Jeux, on voit justement ce qui peut apparaître à la télé. Bon, on vit ça comme un rêve. Après, en plus, comme c'était la première fois que le handball allait être aux Jeux Olympiques, et nous, on était comme des gamins, justement, qui se retrouvaient dans un bac à sable. C'est-à-dire la première fois quand tu découvres un bac à sable ou une salle de jeu où il y a, avec tu arrives avec ton seau, avec tes truelles, avec ta pelle en plastique, tu commences à te retrouver des copains, et tu te dis voilà, c'est tellement beau de retrouver ça. Et nous, c'était pareil, de pouvoir se dire bah, enfin, on existe un peu dans les Jeux Olympiques. Le handball français a droit justement à vivre cette opportunité de pouvoir vivre ce moment. Et c'est vrai que pour nous, c'était une grande découverte. C'était un bon départ pour le handball, pour pouvoir remettre le handball à la valeur qu'on a toujours voulu souhaiter, d'être à la hauteur du sport français reconnu, quoi.
Vous avez, enfin, Alison, enfin, Jérôme, vous, de votre côté, c'est comme ça aussi, l'histoire du handball, ça part de là, vraiment. Enfin, tu vois, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Nous,
Ouais, mais moi.
au tennis, on pourrait dire c'est 91, la Coupe Davis, il s'est passé un truc. Est-ce que vous, c'est pareil, 92, les Jeux?
Bah, Alison, elle n'était pas née en 92.
Non, mais.
Si, j'étais née.
Mais tu vois, on est tout petit, mais tu vois, il y a un moment, tu gardes 83, Yannick Noah, pareil, j'ai 4 ans,
Ouais.
mais tu vois, c'est quand même des images après, quand même, que tu as,
Ben
quand
moi,
il
si tu
arrive.
veux, 92, j'ai 15 ans. Je viens de postuler en sport-études. Donc, je vais découvrir en fait le chemin vers le haut niveau. Je suis dans un tout petit club où il y a 80 licenciés, où j'ai toujours joué avec mes potes, avec mes parents dans le club et tout ça. Et 92, c'est la première fois, si tu veux, que je vois vraiment l'équipe de France jouer à la télé. Et je vibre grâce à Jackson et à ses coéquipiers. Et finalement, on se rend compte que grâce à leur exploit, grâce à leur médaille de bronze, tout le handball français commence à rêver et à devenir ambitieux. Surtout que l'année suivante, ils confirment, puisqu'ils sont en finale des championnats du monde en 93. Et en 95, ils sont champions du monde. Donc, si tu veux, entre 92 et 95, c'est toute la période où moi, je suis en sport-études, où je suis en train de me construire pour devenir un handballeur de haut niveau. Et c'est à ce moment-là où les Barjots commencent à monter sur le podium, à gagner des titres. Et du coup, moi, je commence à rêver et à me dire, si un jour j'ai la chance de porter le maillot de l'équipe de France, je serai peut-être en capacité à gagner des titres. Alors, peut-être au début avec cette génération, mais aussi avec la mienne et celles qui arriveront derrière. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, finalement, comme tu l'as dit, ils ont été pionniers, ils nous ont ouvert la voie vers les plus hautes marches du handball mondial. Et si aujourd'hui le handball français a autant de titres, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est parce que cette génération-là nous a fait rêver en 92.
Je crois que c'est vraiment, elle vous a décomplexé complètement. Il y a vraiment de ça. Vous, toi, tu, Alison, c'est pareil, tu ressens aussi ça, c'est pareil.
Oui, totalement. J'étais
Non.
très jeune donc, à l'époque, j'avais 3 ans en 92, donc l'histoire pour moi, je la connais pas aussi bien que Jérôme, mais pour moi, c'est le début en fait. Vraiment, c'est vraiment le début de tout pour le handball français. Après, il y a eu les filles un peu plus tard. Moi, j'ai grandi plutôt avec la génération de 2003, quoi. Donc, la génération quand l'équipe de France féminine a été championne du monde, Véro, Isa, Val. Moi, c'était l'époque justement de mon sport-études, tout ça. Donc, j'ai grandi avec ça, mais pour moi, c'est clair que 92, c'est le début de tout.
Pour commencer à entrer dans le vif du sujet, justement, sur le goût et la saveur de la médaille. Avant d'aller sur les anecdotes, on va parler vraiment sport d'abord. Mais c'est quoi la saveur, le goût de la médaille? Enfin, c'est en fonction d'ailleurs, peut-être de la couleur, il y a des différences. C'est ça aussi ce qui est intéressant. Forcément, enfin, quand tu fais, alors ça dépend des disciplines, mais l'or ou le bronze, tu peux finir sur une victoire. L'argent, pas forcément. Non, mais c'est un sujet. Comment vous, avez vécu, voilà, c'est la couleur de votre médaille? Alison, vas-y, commence.
Ah, moi, ça a été très, très particulier, puisque c'était plutôt des larmes à la fin du match, la déception, la frustration. L'avant-veille, c'était plutôt une grande joie. C'était une joie qui était décuplée parce que tu rentres dans l'histoire du sport français réellement. Tu sais que tu vas retourner à la maison avec une médaille. Et puis, quand tu perds la finale, tu es sur le podium et tu vois ceux à côté de toi qui sont heureux. Moi, à Rio, j'ai pleuré toute la cérémonie. J'étais en larmes toute la cérémonie parce que tu ne sais jamais quand est-ce que l'opportunité va se représenter. Donc, c'est une opportunité qui est passée et tu n'as pas le titre. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer demain ni dans 4 ans. Tu peux en être, tu peux ne pas en être. Tu peux sortir en quart, comme ça nous est arrivé plusieurs fois avant Rio. Donc, voilà, c'est un peu un poignard au milieu de la poitrine, j'ai envie de dire.
Donc, même si il y a une médaille d'argent, une médaille d'argent à terme, c'est ce que tu dis, c'est...
Non, pas du tout, pas à terme. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est très difficile à vivre. Ouais. Ouais. Après, bien sûr, on...
Tu n'arrives pas à t'en satisfaire tout de suite.
Ouais, non. Moi, je pense que tu n'arrives pas à t'en satisfaire tout de suite. Après, tu arrives avec le recul à mesurer tout le chemin parcouru, tous les efforts qui ont été faits pendant 4 ans pour arriver à avoir au moins une médaille. Je me souviens de paroles de certaines personnes au village qui me disent « Mais toi, tu as une médaille, il y en a d'autres qui n'en ont pas. » Donc, tout ça, ça fait redescendre enfin un petit peu et ça te permet de réaliser aussi rapidement que tu as une chance que d'autres n'ont pas eu, ils n'ont pas réussi à atteindre.
C'est un peu ce qui est cruel dans notre culture française, je trouve. C'est que en France, en fait, soit tu es champion olympique et tu es un dieu vivant, ou soit tu es médaille d'argent, médaille de bronze, ou sans médaille, et on t'oublie presque, tu vois. Et c'est ça qui est dur. Moi, pour avoir vécu à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que même, j'ai connu des sportifs en Espagne qui ont fait 4-5 Olympiades, qui n'ont jamais pris de médaille, et qui sont très respectés et très reconnus dans leur pays. Parce qu'ils ont participé à 5 Olympiades et que c'est quelque chose de fantastique. Et ce que je trouve dommage, c'est que cette médaille d'argent, finalement, des filles, elle est historique parce qu'aucune équipe de France n'avait réussi à faire ça au niveau des filles. Donc, c'est quand même un événement pour le handball féminin français. Mais après, c'est un crève-cœur, bien évidemment, pour les filles comme Alison qui ont vécu la finale parce que tu as le sentiment d'avoir gâché... une occasion d'être champion olympique, mais en même temps tu fais quand même partie pour moi de ce qui se fait de mieux dans l'histoire de ton sport. Donc je pense que, comme elle l'a dit Alison, à terme tu savoures cette médaille d'argent, mais sur le moment c'est terriblement cruel parce que tu termines sur une défaite, alors que quand tu fais un sport individuel ou tu vois un 100 mètres ou quoi que ce soit, bah, tu peux être heureux d'être médaille d'argent parce que tu as fini deuxième et sur le moment, finalement, tu es juste derrière le premier, mais c'est quand même une réussite. Alors que quand tu fais un sport co et que tu perds une finale, tu perds une finale en fait, tu ne gagnes pas une médaille d'argent au début. Et ça, c'est cruel. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Alison a gagné d'autres compétitions et donc, du coup, peut-être que ça c'est venu un petit peu atténuer cette sensation-là. Mais je pense qu'il faut qu'elle garde à l'esprit, les filles, que cette médaille d'argent olympique, c'est quelque chose d'historique et que finalement, il va peut-être encore se passer de nombreuses Olympiades avant qu'une équipe de France féminine arrive en finale des Jeux, quoi.
Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites. C'est vrai que je l'explique clairement par rapport à Alison, mais je comprends exactement ce que Alison a vécu, comme elle est dit si bien. C'est que voilà, c'est vrai que sur le coup, tu perds une finale, tu es dans la déception. Mais après, justement, en prenant du recul, quand tu as tête reposée, tu te dis, voilà, encore, tu as eu la chance d'avoir la médaille d'argent, la deuxième place. Mais on a plus facilité de pouvoir se défocaliser de la contre-perf entre nous, entre guillemets, de dire, voilà, bah, de pas remporter cette médaille d'or. Mais je l'ai vécu dans tout à fait différent. J'ai eu la médaille de bronze, certes, comme tu disais Arnaud, tu finis sur une victoire, et j'ai aussi la médaille au chocolat en 96. C'est-à-dire, on perd la médaille de bronze, on finit quatrième de ces Jeux Olympiques. Et là, c'est encore pire, parce que là, ouais, tu ne peux même pas t'attacher de dire, voilà, tu as quand même une médaille en prenant du recul. Mais ça te suit à vie, quoi. Ça te suit à vie parce que tu te dis, bon, bah, c'est une médaille, mais c'est une médaille au chocolat, quoi. Ça a fondu juste après le voyage. Toi, c'est même pas, ça ne peut pas exister. C'est pour ça que je comprends ce que dit Alison, justement, de pouvoir dire, ben voilà, c'est une certaine frustration de pas être à la plus haute marche, parce que, comme elle a dit, comme on le sait tous, on se donne les moyens pour vivre ça. Et en plus, eux, c'était plus frustrant parce qu'ils étaient, on va dire, ils étaient favoris aussi. Ils avaient largement la possibilité d'être à la plus haute marche. Et c'est cette frustration, justement, qu'elle avait du mal que l'équipe de France féminine avait du mal à traiter, parce que je disais, ben, parce que quand tu perds une finale de plusieurs buts d'écart, tu peux dire, ben voilà, j'étais meilleur que toi. Tu dis, bon, tu te contentes, tu ne peux pas focaliser là-dessus. Mais voilà, je pense que la frustration, elle est compréhensible.
C'est pour ça que la saveur, elle est différente en fonction, justement, tu vois, du dernier match, finalement. Parce que toi, en 92, justement, quand vous la faites, cette médaille de bronze, vous finissez sur une victoire. Et j'imagine, je ne sais pas, il y a quand même une certaine euphorie, finalement.
Et en plus, c'est presque comme un titre olympique. Hein.
Mais c'est ça, c'est ça la question.
Bien sûr, parce que justement, pour répondre un peu à la question de 92, tout ça, parce que nous, dans cette période-là, le handball existait d'une certaine façon, mais c'est pas mis en avant au niveau des gens qui suivent le sport. En fait, c'est grâce aux Jeux Olympiques que les gens ont vu différemment le handball. Parce qu'ils disaient, tiens, le handball, quand il y avait les championnats du monde, les championnats d'Europe, tout ça, ça ne se passait pas à la télé. Et c'est grâce aux Jeux Olympiques qu'il y avait des retransmissions de matchs de handball à la télé, que les gens se sont intéressés un peu plus que le handball. Mais même quand on a eu ce résultat, les gens disaient, tiens, ben, c'est bien le fait de handball, j'ai fait du handball à l'école. C'était pas encore professionnel comme on peut vivre maintenant. Les gens disaient, tiens, c'est bien, je découvre le handball différemment. Et en fait, ça a valorisé notre sport, ça nous a mis un peu plus dans la lumière, que nous a donné la possibilité justement de pouvoir professionnaliser le handball, de s'épanouir, que les gens s'intéressent un peu plus au handball que qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 92, comme je disais tout à l'heure, on finit 9e, on se qualifie au dernier moment pour faire les Jeux Olympiques. On n'existait pas à travers des appellations. C'est-à-dire l'équipe de France, c'était la 9e équipe, la 9e meilleure équipe du monde. Mais là, à chaque fois, le premier match, ça a été le déclic pour nous. Parce que on joue contre l'Espagne, contre le pays organisateur des Jeux Olympiques. Et en fait, nous, on avait la pression, mais les Espagnols avaient plus la pression. Et c'est là qu'on a eu ce déclic pour pouvoir dire, ben voilà, on existe. On n'est pas des charlots qui viennent faire juste une compétition, faire les Jeux Olympiques. Et en fait, ça a été le déclic pour nous de se dire aussi, ben nous aussi, on a la capacité de mettre un petit peu aussi l'accent sur le oui, quoi.
Ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse vachement. Parce que pour partager là-dessus, moi j'ai l'impression, encore une fois, que les Jeux, par rapport à tout ce que j'ai vécu autour, les grands chelems, les machins et tout, ça a vraiment une saveur différente. Alors, certainement le drapeau, certainement le fait de se sentir investir d'une mission, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, quand tu parles de déclic comme ça, moi c'est pareil après le deuxième match, tu vois, donc c'est un tournoi où il y a 7 tours, et après le deuxième tour, je bats un mec qui n'est pas forcément le plus fort, mais je sors du match. Et il me reste 5 matchs à gagner, pour aller au bout. Et je dis, je vais être médaille d'or. Et je suis dans les choux au classement. C'est-à-dire que quand tu parles de déclic, il se passe un truc. Je ne sais pas si vous, il y a des déclics, il y a des trucs qui se passent en équipe. Vous sentez un truc monter, un truc grandir. J'imagine que oui, ça doit être et d'ailleurs hyper puissant parce que l'effet est multiplicateur si on est nombreux. Mais tu vois, toi, c'est cette victoire sur l'Espagne, c'est ce que tu dis, peut-être qui derrière vous lance et vous... des complexes d'une certaine manière et vous dit on peut y aller.
Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, comme j'expliquais, parce qu'en fait on était vraiment la dernière roue de une charrue, que personne ne misait sur nous, personne.
Et vous y allez en sur nous. Y a, genre rien à perdre, c'est quoi, c'est genre rien à perdre.
Ben voilà. On s'est dit oui, parce que je me rappelle justement, pour revenir à l'anecdote par rapport à ce match-là contre l'Espagne, je me rappellerai toujours, c'est comme si c'était hier. Ben, on allait jouer l'Espagne parce qu'en fait, on fait des matchs amicaux et comme il y avait Les Espagnols, ils ont joué contre une équipe hongroise, dont il y a un Hongrois qui jouait en France, vous connaissez et tout. En fait, ils disaient qu'ils allaient, ils allaient tordre la France au premier match, quoi. Et en fait, ça fait pendant 2 jours avant, ça nous a boosté. On s'est dit, tiens, ben voilà, on va s'ils veulent nous tordre. Et je me rappelais toujours le joueur du match. On allait rentrer sur le terrain et je voyais Laurent Mignet qui faisait un signe, mais méchant, un des meilleurs joueurs espagnols. Et justement, il a fait signe juste face à face comme ça. Il a regardé le mec, il a dit ce soir. Et en fait, tu vois, ça rentre vraiment dans l'ambiance. Et nous, ça nous a permis justement de créer un handball qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qui sortait de la boîte à gifles. Et ça, c'était pas dans notre culture avant. C'était pas dans notre culture. Et c'est là qu'on a appris justement à être beaucoup plus agressif dans le jeu, parce qu'on s'est dit, bon, l'équipe espagnole était meilleure que nous. Pour pouvoir les battre, on va mettre des bâtons dans leurs roues pour pouvoir les empêcher justement de dérouler sur nous. Et en fait, on a sorti la boîte à gifles. Et en fait, c'est grâce à ça, c'est dans le premier match qu'on a fait d'avoir ce comportement-là. Mais en fait, ça a donné un rythme dans la motivation de notre engagement et surtout aussi d'un rythme de jeu que les arbitres se sont habitués à notre façon de jouer. Et c'est comme ça qu'on a réussi justement à imposer notre jeu que les autres, à la fin de la phase des poules, que les gens disaient, mais les autres équipes disaient que les Français ils avaient un jeu trop violent, c'était indécible, que les arbitres ne sifflaient pas leur façon de défendre. Mais en fait, en gros, c'était une découverte pour nous qui nous a donné l'opportunité de mettre en place de la part des Espagnols, parce qu'ils ont réussi à nous motiver sans l'intermédiaire de l'entraîneur.
Ça a été le déclic. Et toi, Jérôme, tu ne nous as pas parlé de tes médailles. On en parle ou on n'en parle pas? On en parle un peu. Quand tu veux, non, oui. Tu peux nous dire. D'ailleurs, il y en a deux. Elles sont, bon, peut-être deux en or. Mais est-ce qu'il y a des différences dans les
matchs? Oui, forcément. Forcément, il y a des différences parce que chaque compétition est différente déjà. Et la première, elle a toujours une saveur particulière. Pour aller dans le sens de ce qu'a expliqué Jackson avant, quand tu fais les Jeux Olympiques, c'est aussi une opportunité de faire sortir ta discipline de l'ombre. Les Bargeaux ont commencé à le faire en 92 avec cette médaille de bronze. Et moi, j'ai eu la chance de rentrer à la fin des années 90 en équipe de France. Donc, je te raconte même pas les premiers stages où je me suis retrouvé avec Jackson et ses compères, où c'était mes idoles d'enfance et je me retrouvais à m'entraîner et à jouer avec eux. Et finalement, si tu veux, les Jeux de Sydney, pour moi, c'était un petit peu la découverte. J'étais très jeune et voilà, c'était l'enfant qui arrive à Disneyland et qui a envie de profiter de chaque instant, sauf que je me suis un petit peu perdu là-dedans et du coup, j'ai pas vraiment été très bon et j'ai pas aidé l'équipe à performer. On a perdu en quart de finale. En 2004, on était, je pense, très ambitieux parce qu'on avait été champion du monde en 2001 et médaillé de bronze au championnat du monde en 2003. Et on se sentait très costaud. Et le fait que Jackson soit porte-drapeau en 2004, pour nous, c'était une énorme reconnaissance pour notre sport, pour notre équipe. Et on avait envie, si tu veux, de rendre honneur à ce privilège-là, que le handball et Jackson soient porte-drapeau. On a fait une super phase de poule où on a gagné tout le monde et on s'est planté en quart de finale contre les Russes. Donc, on est arrivé, si tu veux, en 2008 à Pékin avec énormément de frustration. On était déjà champion du monde en 2001 et champion d'Europe en 2006, mais on était encore le handball, entre guillemets, un sport secondaire, tu vois. Et finalement, on avait pris conscience que si on voulait que le handball sorte de l'anonymat et que les handballeurs commencent à être reconnus à leur juste valeur, et notre discipline aussi, il fallait qu'on soit champion olympique. Et donc, on est arrivé à Pékin après une préparation où on a laissé aucun détail par hasard. On était vraiment focus sur le fait d'arriver dans les meilleures conditions physiques, tactiques et tout ça sur le tournoi. Et on a marché sur tout le monde pendant toute la compétition. Par contre, moi, personnellement, ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième match, je me suis blessé à la main. Donc, sur le moment, j'ai compris que j'allais devoir rentrer à la maison, puisque normalement, c'est comme ça que ça se passe. Cédric Paty, qui était le joueur remplaçant, avait pris ma place dans l'équipe. Et si tu veux, en sortant des radios de ma main, le DTN m'annonce que j'ai la possibilité de rester au village et de continuer l'aventure avec l'équipe. Donc pour moi, c'est un moment magique, parce que quand il me dit ça, je me dis, putain, on va être champion olympique, parce que je le sentais, je voyais qu'on était tous très très forts individuellement et que comme équipe, on était très solide parce qu'on avait appris de nos erreurs du passé, on était vraiment en pleine confiance. Et du coup, le fait de pouvoir vivre cette compétition au cœur de l'équipe, mais sans avoir la chance d'être sur le terrain ou même sur le banc, ça a été un moment très particulier parce que j'ai emmagasiné énormément de stress que je ne pouvais pas évacuer parce que je ne pouvais pas faire de sport, j'avais un plâtre à la main. Énormément d'émotions parce que à chaque fois qu'on gagnait un match, je nous voyais arriver au bout et je me disais, ça y est, le handball français va être champion olympique et ça va être magique. J'en ai encore des frissons pour te dire. Et finalement, on se retrouve en quart de finale contre les Russes qui nous avaient éliminés 4 ans plus tôt. Et donc là, si tu veux, c'est un moment où tu te dis, oh, on peut reprendre le cours de l'histoire et on peut changer l'histoire. Et là, moi, dans le bus, quand je monte dans le bus, je ne vais pas jouer le match, hein. Et je suis tellement à fleur de peau que je pleure. Je pleure tout seul. Parce que je me dis, voilà, on va jouer les Russes, on va les battre et on va enfin aller en demi-finale. Parce que nous, notre génération, on ne l'avait pas fait encore. Contrairement à la génération de Jackson. Et je vis ces derniers jours, mais d'une façon exceptionnelle. Alors que je suis blessé et que j'aurais très bien pu me dire, ben mince, je ne vais pas pouvoir profiter vraiment à fond et je ne vais pas me sentir champion olympique. Sauf que je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Moi, je voulais que notre discipline, que le handball soit champion olympique. Et finalement, on l'a été. Donc, c'était bien évidemment un moment extraordinaire. Et à partir de là, vraiment, j'ai senti que le handball et les handballeurs, quand je dis handballeur, c'est handballeur et handballeuse, bien sûr, étaient sortis de l'anonymat et que les gens, finalement, qui ne s'intéressaient pas au handball avant, avaient suivi notre épopée et du coup, s'étaient intéressés à notre discipline, avaient vibré grâce à notre équipe. Et du coup, ce sont des gens qui nous ont suivis sur les compétitions qui ont suivi jusqu'au Jeu de Londres. Et moi, ce qui a été magique, c'est que sur cette période-là, en fait, entre 2008 et 2012, c'est là où je suis devenu capitaine. Je me suis retrouvé avec le brassard. On a gagné pratiquement toutes les compétitions auxquelles on a participé. Et on arrive à Londres avec notre génération qui est un petit peu vieillissante. Et où, si tu veux, la presse dit, ouais, les mecs, ils sont terminés. Ils n'arriveront jamais à rééditer l'exploit d'il y a 4 ans, etc. Et nous, ça nous a boosté, mais à mort, quoi. Un peu comme le fait que les Espagnols avaient dit qu'ils allaient écraser les Français en 92. Nous, on s'est senti, si tu veux, responsable du fait que bah, il fallait pas qu'on donne raison à la presse, quoi. C'était pas pour démontrer qu'on n'était pas fini. C'était pour démontrer que notre génération, certes, était vieillissante, mais on avait réussi à passer le relais comme l'avaient fait les anciens avec nous, et qu'on voulait que l'équipe de France de handball continue à gagner des titres. Et on a réussi à être champion olympique pour une deuxième fois, et en plus. Consécutive. Donc, ça a été un moment extraordinaire, mais qui était quand même différent du premier parce que la première fois, c'est toujours différent et ça, tout le monde le sait.
Toi, Alison, c'est pareil, il y a eu un déclic, vous, de votre côté à Rio, quand vous allez chercher cette médaille d'argent. Tu sens un truc qui se passe, qui se produit dans l'équipe. Là, tu vois, enfin, vous deux, vous racontez que finalement, il s'est passé il y a un déclencheur. Finalement, c'est marrant comme quoi on est tous un peu compétiteurs quand même et on a besoin d'être bousculés. On a besoin
Après,
d'entendre
si
un
on ne l'est
truc.
pas, quand on fait un
Ouais.
sport co, tu te retrouves avec des mecs qui le sont et
Bien sûr, mais je
vraiment,
pense
tu
que.
t'imprègnes d'eux.
Ouais, mais après, non, tu vois, même au-delà du sport co, j'ai l'impression qu'on aime bien être bousculé. Tu as besoin de prouver, d'être un peu revanchard même. C'est ce que vous dites, tu vois, d'aller prouver que, montrer
Ben,
que
surtout quand tu es
tu es
champion en
capable.
titre, en fait.
Ouais, en plus, derrière, faut. Enfin, avec la presse un peu difficile envers vous et tout, mais c'est que. Vous, Alison, vous avez pareil ou pas? Enfin, à un moment, tu as un souvenir comme ça?
Honnêtement, il y a beaucoup de similitudes entre par rapport à 2012 chez les garçons. Quand même, nous, on a été très chahutés 6 mois, les 6 mois avant les Jeux de Rio. On était dans une période assez compliquée. On a été pas mal secoués en tant qu'équipe. Notre Olivier est revenu après le championnat du monde qui s'était déroulé au Danemark, je crois. Donc, il est revenu en janvier, il est revenu à 6 mois des Jeux. Et là, voilà, il y a tout un processus qui s'est mis en place et enclenché. On fait le TQO, on se qualifie, mais on perd contre la Hollande, contre qui on avait déjà perdu 3 mois auparavant, en quart de finale, je crois. Et puis, on a longuement discuté avec le groupe. C'est vrai qu'à Rio, je crois qu'il y avait 9 filles qui n'avaient jamais fait d'Olympiade, je crois, même un peu plus. Et nous, forcément, on trimballait 2008, 2012, cette frustration, quart de finale perdue, sur des scénarios un peu rocambolesques à chaque fois. Donc, ça n'a pas été simple du tout. Par contre, pendant la prépa, j'ai senti vraiment un groupe qui a été concentré, focus. On s'est mis vraiment à la misère pendant cette préparation. Et puis, on est arrivé à Rio et il y a eu ce déclic. Je pense qu'on l'a eu, c'était par rapport à notre identité d'équipe. On n'avait pas un jeu qui était alléchant. On était une équipe qui était très défensive. Et je pense que c'était assez lourd à porter pour nous. On avait du mal à l'assumer. Et puis à Rio, on en a parlé avant que la compète commence. Et puis on s'est dit, en fait, c'est pas grave. Si c'est comme ça qu'on doit jouer pour aller avoir cette médaille, on jouera comme ça. Et puis c'est notre identité, c'est notre marque de fabrique. Et nous aussi, on a sorti la boîte à gifles. Et il y a ce premier match qui lance vraiment notre campagne olympique contre la Hollande. On restait sur 2 défaites contre elle. La veille du match du match d'ouverture, on prépare contre la Hollande et là je sens que la pression elle monte et je savais qu'on allait gagner ce match parce qu'il y avait un tel focus. Et après il y a eu les regards à l'échauffement dans le couloir avant de rentrer sur le terrain. Il y avait pas moyen, en fait, ce jour, ce match, il était pour nous. Et ça nous a donné énormément de confiance. Ça nous a permis aussi de poser les bases un petit peu de plein de choses pour les matchs suivants. Et voilà. Et puis, il y a eu, au bout, on décroche cette finale et cette médaille historique pour le handball féminin.
Bon, il y a quand même beaucoup de fierté, tu vois. Il y avait de la déception, mais maintenant, il y a beaucoup de fierté. En tout cas, c'est génial. Donc, après, sur les émotions et tout ça, après, les Jeux olympiques de l'intérieur, donc vous avez un peu évoqué de temps en temps le village olympique. Extraordinaire, je ne sais pas. Enfin, j'ai entendu le mot Disneyland, c'est, je crois, exactement ça. C'est comme ça qu'on le vit, j'ai l'impression, quand je ne sais pas à quel âge, peu importe l'âge d'ailleurs, mais c'est ça, on débarque et là, tu as autour de toi que des athlètes de ouf partout et tu te dis c'était l'impression d'être dans un rêve éveillé. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu. Enfin, moi c'était, j'ai fait Sydney, c'était dans ce village. Alors, en plus après je pense que d'ailleurs il y en a peut-être, peu importe, il y a des jeux peut-être qui se dégagent plus que d'autres, mais au-delà des médailles, peut-être aussi dans l'organisation, dans le ressenti aussi très personnel d'ailleurs. Je sais pas si comment, enfin tu l'as, ouais, vous l'avez vécu. Moi fabuleux, c'est pas ce qui m'a plus fait vibrer.
Moi, je pense que parler des 3 expériences, je pense que Pékin, ça a été aussi Disneyland. Bon, pour moi, c'était aussi mes premiers jeux, un peu comme Jérôme quand il a parlé de Sydney. Et pour moi, c'était vraiment le gigantisme à l'état pur. C'était vraiment waouh. Par contre, ce qui était un peu chiant, c'est que tout était loin. Ouais. Donc, il y avait énormément de transports pour aller à la salle, pour s'entraîner, les matchs. C'était très long. Moi, je trouvais que Londres, pour moi, c'est les meilleurs JO que j'ai vécu parce que tout était à côté. Tu pouvais même aller à la salle d'entraînement à pied, même si le protocole fait que tu es obligé de t'y rendre en bus, même pour les matchs. Mais l'ambiance était extra. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie proximité avec toutes les nations. Moi, c'est les jeux qui m'ont vraiment marqué dans son ensemble. Voilà. Et puis Rio, si je devais faire un classement, je mettrais Rio en 3, malgré qu'il y ait la médaille. Mais si on parle vraiment de tout ce qui va avec, le village, Rio, pour moi, ça avait en 3e position. Pour moi, c'est Londres, Pékin et Rio. Ouais.
Et vous, Jackson?
Moi, déjà, en 92, si tu veux, c'est la première fois où je regarde les Jeux vraiment à la télé. J'ai 15 ans et ce qui est magique, au-delà du tournoi fantastique qu'ont fait les Barjots avec l'équipe de France, c'est aussi la Dream Team de basket, Carl Lewis. Donc déjà, tu vois, ce sont des choses qui te marquent à vie quand tu es gamin et tu te dis, si un jour j'ai la chance de participer à cet événement, il faudra vraiment que je le savoure, quoi. Et pour moi, les quatre Olympiades que j'ai eu la chance de faire, je les ai vraiment vécues comme un privilège. Après, je rejoins bien évidemment tout le monde sur le fait que pas tous les JO sont toujours bien organisés. Moi, pour moi, le pire, ça a été Athènes. Je pense que Athènes, ils étaient vraiment pas au point. Ils n'avaient pas fini le chantier, en fait. Donc, c'était vraiment pas agréable. J'ai un super souvenir de Sydney et de Londres, qui était super bien organisé. Le village était top. Surtout à Sydney, c'était vraiment incroyable. Pékin, c'était bien. Bon, franchement, c'était bien, Pékin. Mais après, voilà, le fait que ce soit des tours et tout, c'était un peu bizarre. Enfin, je sais pas ce qu'on a pensé à Alison, mais moi, ça m'a fait bizarre, en fait, que ce soit des tours avec 10 étages et tout ça, mais c'était quand même bien. Mais par contre, c'est vrai que Londres et Sydney, ça a été grandiose. Et je pense que toutes les Olympiades ont leur charme, mais elles en ont encore plus, forcément, quand tu repars avec une petite breloque à la fin, quoi.
Ben, moi, je dirais, voilà, enfin, comme tu dis, Fernand, ils sont tous différents. Moi, au-delà de pareil, de l'effet d'avoir une médaille à Barcelone, en fait, c'est le premier, certes, mais c'est surtout qu'on n'avait pas ce qu'il y a eu à partir d'Atlanta, cette sécurité, cette vigilance très, très pointue. Et Barcelone, c'était beaucoup plus souple, mais c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait cette facilité justement de pouvoir sortir, moins de contrôle, c'était moins strict. C'est vrai que, on va dire, c'est le seul pays qui était vraiment très strict, c'était l'Israël. Ils étaient vraiment à l'écart de dans le village, mais c'est surtout, c'était beaucoup plus ouvert. C'était pas comme tu disais Fernand, à Atlanta. Moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était dans les tours. C'est pas pareil, mais à Barcelone, c'était des immeubles mais beaucoup plus ouverts. Il y avait surtout cette facilité de pouvoir circuler, sortir sans tous les contrôles, tout ça. Et je dirais aussi, bah, c'était plus agréable. C'était plus agréable. Et après, justement, pour répondre à ta question, tu disais, c'est un peu folklorique, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un village, ben voilà, un village où tu côtoies, ben, des gens que tu regardes à la télé. Et là, nous, on a l'habitude de faire, ben, dans tous les cas, on est dans notre compétition, qu'on fait, ben, que ce soit Coupe Davis, que ce soit, ben, championnat du monde, championnat d'Europe, on est toujours, ben, on est avec les mêmes, enfin, le même sport. Mais là, l'effet de côtoyer d'autres sports, d'autres sportifs, et surtout d'avoir la possibilité, ben, de voir, ben, de croiser, ben, des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé. Et même, toi, de faire l'échange de pins, ou demander des autographes, faire une photo, et tout ça. Et ça, c'est grandiose. Moi, comme je dis, moi, les Jeux Olympiques, pour moi, c'est le zoo d'humain, quoi. Parce que, comme je dis, tu vas rencontrer un basketteur qui fait 2,20 m, et tu vas rencontrer une petite gymnaste qui fait 1,50 m, un haltéro qui fait pratiquement 100 kilos. Et voilà, c'est ça qui est fabuleux, peut-être, de pouvoir côtoyer toutes ces personnes-là et de dire que même entre sportifs français, quoi, c'est la famille française, tout, comme disait Alison tout à l'heure, ben, peut-être tu ne t'intéresses pas forcément à des sports parce que tu ne regardes pas la télé, mais de dire, voilà, quand tu croises quelqu'un qui a le survêt bleu, blanc, rouge, tu dis bonjour, alors ça va, tu as l'impression de les connaître, mais sans les connaître, on fait connaissance, on échange parce qu'ils ont le survêt bleu, blanc, rouge, le t-shirt ou le maillot bleu, blanc, rouge. Tu dis, voilà, c'est notre famille, quoi. C'est ça
C'est la
qui
grande famille France. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment
est
ça. Hein. C'est
ça qui est
génial.
fabuleux.
J'ai entendu parler d'une anecdote avec Magic Johnson.
Magic Johnson?
Non?
Non,
Non.
non, non, non. Ben, tiens, ben, moi à Barcelone, j'ai plein d'anecdotes. J'ai plein d'anecdotes. Non, c'était pas Magic Johnson. C'était
Ah, on m'a dit Magic
Charles.
Johnson. Vas-y, c'est qui alors?
Ben, non, mais en fait, c'est Charles Barkley. On était en train de passer
Ah.
justement à côté de. à côté de notre immeuble, il y avait un petit terrain, il y avait des boules, et à chaque fois, on faisait des échanges pour justement créer cette cohésion de ce groupe trans, quoi. C'est-à-dire, toi, à chaque fois, on prenait les boules, ça facilitait justement de pouvoir, t'enlèves cette barrière de notoriété. Dans ce temps-là, c'était surtout les athlètes. Il y avait Marie-Rose, Sangouma, eux, ils ont l'habitude des jeux. C'était vraiment Marie-Jo, c'était des personnes qui connaissaient l'ambiance des Olympiques, le village olympique. Alors, on échangeait avec eux, ils venaient jouer au boule avec nous, et à un moment, on jouait. Et puis, comme on était juste à côté de l'immeuble des Américains, et à un moment, il y a des gens qui circulent en Amérique. Tu vois quelqu'un qui arrive vers toi avec le survêt américain, tu ne prends pas cas. Toi, tu dis, c'est comme si c'est quelqu'un qui passe dans le village, quoi, tu ne prends pas cas. Et à un moment, il s'arrête, il est en train de nous regarder, il nous fixe. Et genre, qu'est-ce qu'on est en train de faire à jouer avec des boules de fer, il trouvait ça un peu bizarre. Quoi. Et moi, comme j'ai toujours été fan de basket américain, et moi, de suite, ça a fait titre. Je dis, putain, mais les gars, c'est Charles Barkley. Je me rappelle qui c'était. Charles qui? Tu me dis Charles qui? Je dis, quand même, Charles Barkley, quand même, c'est la Dream Team, quoi. Et c'est ça qui a fabuleux. Mais après, tout à l'heure, je vais laisser la parole, mais je donnerai une autre anecdote pendant la cérémonie d'ouverture. Parce que là, c'est du grandiose.
Ah, vas-y, on est sur les anecdotes. Hein. Allez-y, dans le village.
Vas-y, mais à vous.
Tu peux y aller,
vous,
vas-y.
Chacun son tour. Non, à vous, là, donnez l'anecdote après.
Vous, justement, c'est quoi, enfin, pareil, dans ces moments-là, c'est quoi? C'est le village? C'est la cérémonie d'ouverture qui vous a marqué? Où là, tu te retrouves vraiment avec des yeux de gamin? Alison, toi, c'est plutôt quel moment comme ça que tu gardes en tête? Où tu as fait tes petites photos, tu as fait des échanges de pins?
Ouais, moi, il y a vraiment une photo. La cérémonie d'ouverture de Rio, ça a été quelque chose, parce que c'était la première fois qu'on y allait. Donc, on a eu la chance de pouvoir participer et de défiler. Et ça a été un beau moment. L'attente, de voir un peu les superstars qui arrivent, etc. Et donc, il y a toute cette ambiance et tout. Puis, c'est vraiment sympa. Et puis, tu vois, la préparation, tu commences à avancer. Il y a l'entrée dans le stade et là, tu fais « waouh ». Donc, j'imagine que si tu fais toutes les cérémonies à chaque Olympiade, tu n'as pas forcément les mêmes sentiments, mais il doit quand même avoir ce frisson dans l'entrée au stade quand tu vois qu'il est plein et que les gens crient et tout. Tu te dis, ouais, c'est quand même un privilège de fou. Et puis, moi, je m'en rappellerai toujours, c'est Michael Phelps à Pékin quand il bat le record de Mark Pitt. C'est 8 breloques. Je l'ai vu au self et je lui ai demandé si je pouvais faire une photo. Je crois que c'était la première fois que je faisais une photo.
T'es allé le voir et tu lui as demandé. Voilà. T'es allé le voir.
J'étais juste à côté de lui en fait. J'étais juste dans la queue, juste derrière lui, pour me servir à manger. Et en fait, tout simplement, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une photo et tout. Et je crois que j'ai réitéré à Rio. Parce que forcément à Rio, il est devenu la tête le plus avec le plus de médailles.
Le plus capable.
Donc le plus capé. Donc j'ai réédité, j'ai dit là c'est quand même collector et tout. Voilà. Et puis je me rappelle aussi discussion un peu détente avec Asafa Powell à côté du self aussi. C'était à Pékin également.
Ouais, c'est des trucs qui paraissent assez réels comme ça. Toi, Jérôme, c'est pareil. Enfin, ces moments après dîner là où tu te balades un peu pour chercher des têtes un peu connues.
Des pins.
Ouais. Hein déjà. Déjà un petit peu comme Alison. Moi, mes premiers jeux à Ciné, on n'a pas pu défiler parce que on avait le match le lendemain matin, le samedi matin à 9h30 contre la Slovénie. Donc, j'étais super frustré parce que je me suis dit, si je fais une fois les jeux dans ma vie et je peux pas faire la cérémonie d'ouverture, c'est horrible, quoi. Et ce qui a été génial, c'est que, 4 ans plus tard, on a pu la faire à Athènes. Et en plus, c'était Jack qui était devant. Donc, du coup, ça a un petit peu compensé le fait de pas l'avoir fait 4 ans plus tôt. Mais bien évidemment que qu'il y a des souvenirs un peu particuliers sur les cérémonies d'ouverture. Je me rappelle avec Thierry Omeyer à Pékin, on était allé voir Yao Ming et Federer pour faire des photos une fois qu'on était regroupés sur la pelouse. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué et ce que je retiens des Jeux, c'est vraiment l'aventure humaine, l'expérience humaine avec les autres athlètes de l'équipe de France Olympique. J'ai souvenir à Londres, par exemple, où on discutait en bas du bâtiment avec Renaud Lavigny, avec Teddy Riner et avec d'autres athlètes, tu vois. Et c'était magique avec les basketteurs aussi qui étaient là, avec Tony Parker et Borisio. Et tu te dis, ouais, mais je fais partie de la grande famille du sport français, quoi. Et ça c'est vraiment magique, quoi. C'est ce que vraiment, moi, je retiens des Jeux Olympiques parce que c'est ce qui, après, quand tu arrêtes ta carrière, alors Alison, c'est pas encore le cas, mais Jack et moi, nous, ça y est, on a basculé. Ben, après, quand tu es invité sur des événements où il y a plein de sportifs différents qui sont réunis, ben, tu recroises justement des sportifs avec qui tu as fait les Jeux, avec qui tu étais au village, avec qui tu as échangé ou tu n'as pas osé échanger aussi. Et du coup, ben, voilà, ça crée du lien et je trouve ça génial, quoi.
Tu penses qu'il y a même une famille un peu des Olympiens après qui reste d'une certaine manière presque.
Oui, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui sont créés avec des ambassadeurs ou des sportifs qui ont été au JO ou qui ont été champions olympiques ou médaillés olympiques, qui sont là en fait pour parrainer l'événement et qui sont là pour accueillir des jeunes qui vont y participer ou qui rêvent d'y participer, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est cette transmission, si tu veux, que nous on a, enfin que moi en tout cas j'ai toujours connu au handball grâce à la génération de Jacqueline. J'ai l'impression de vivre la même chose mais avec tous les sportifs français, et ça je trouve ça génial. Donc sachant qu'on n'est pas un pays hyper sportif, on va pas se mentir, je trouve que ça quand même ça alimente quelque chose de fort dans notre pays. Et c'est ça qui fait que même si on est un petit pays quand même à l'échelle mondiale, on a quand même au ranking des médailles des super résultats et finalement on a des performances dans plein de sports différents. Donc ça c'est vraiment fantastique. Et en plus, ce qui est génial aussi, c'est que il y a des fois où tu croises par exemple des Olympiens ou des champions olympiques, mais qui ont été champions olympiques sur des Jeux d'hiver. Mais toi, aux Jeux d'hiver, tu es pas. Donc tu les connais pas, ces mecs-là, tu les croises jamais. Et après ta carrière, après tu les côtoies, tu les rencontres, et ça c'est génial.
Bon, l'anecdote croustillante là, moi j'attends, hein. Jackson, je suis au taquet. Moi, vous avez
allez
été...
Jack, vas-y, commence, parce que moi j'en ai une belle aussi.
Ils ont voulu nous mettre les frissons avec le drapeau, les survêtes, moi je veux plus, vas-y.
Non, mais en fait, c'est comme on le sait tous, c'est-à-dire 92, c'était la Dream Team, ouais. Et en fait, pendant la cérémonie d'ouverture, la chance qu'on avait, c'était on s'est retrouvés, la file d'à côté, après la France, c'était les Américains. Et moi, je me rappelle, il y avait trois Blacks, les trois Vastas. Il y avait Eric Wolfer, c'est un ancien volleyeur, Laurent Chambertin et moi. Et en fait, on n'avait pas le droit de quitter le fil pour pouvoir aller, justement, d'aller dans notre fil, pour rester. Et nous, de suite, on n'a pas calculé. Tous les trois, on avait des toiles.
Dans ce temps-là,
il n'y avait pas encore les téléphones portables, tout ça. Nous, moi, je ne fais pas de la pub pour, mais toi, c'est les petits appareils photo jetables, tu vois. Nous, on avait ça.
Comme au mariage, tu sais.
Voilà, tu vois. Et nous, de suite, on est parti. Je dis, toi, mais moi, comme je disais, je suis fan de basket américain, et le porte-drapeau, c'était Magic Johnson, quoi. Et moi, je dis, pour moi, c'est le rêve si j'ai une photo de lui. Et en fait, on est parti. Et en fait, en gros, je voulais absolument prendre la photo de Magic. Et sur la devant, il y avait Pippen, tout ça. Mais juste avant d'arriver au porte-drapeau, et en fait, il y avait une barrière. En fait, un câble, tout ça, on ne pouvait pas accéder à Magic. Et en fait, moi, j'ai forcé le passage pour pouvoir essayer de prendre une photo. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on était les premiers. Et en fait, j'ai une photo de Magic, mais pas avec, à côté. Mais j'étais en train de bousculer, quelqu'un à côté de moi et tout ça. Et à un moment, il parle en anglais, j'ai pas tilté. Moi, je me pousse, les gens, ils me poussent. Moi, j'étais, moi, le français moyen. Oh, ça va. Moi, je fais ça, ça va. Et vous ne devinerez jamais qui c'était.
Michael Jordan.
Non, ah non, mais Michael Jordan était devant. C'était Carl Lewis.
Non.
T'imagines? Je vais te dire, c'était Carl Lewis.
Et toi, là, tu le poussais. Moi,
ben ouais, je suis en train de le pousser. Et moi, les Jeux Olympiques, ben quand j'étais gamin, ben les Jeux Olympiques, dans ce temps-là, c'était Carl Lewis. C'était le roi des Jeux, quoi. Et déjà, là, moi, je suis en train de le bousculer. Et je me rappelle, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai fait une photo de lui. En plus, dans ce temps-là, on ne pouvait pas cadrer avec le bazar et tout. Et carrément, j'ai un gros plan de Carl Lewis comme ça. Là, je me souviens. Et là, tu t'imagines, tu te dis, waouh. Tu te dis, tiens, carrément, tu es en train de pousser hein, le dieu du stade, le dieu des Jeux Olympiques, et tu es en train de le pousser, quoi. Et après, voilà, pendant ce temps-là, dans ce temps-là, j'ai eu la chance encore que tu n'es pas encore vraiment connu. Moi, j'ai des photos en souvenir de ce qui de là, parce que là, c'était facile, parce que on était les premiers. Toi, ils acceptaient plus facilement les photos. Moi, je me rappelle, j'ai une photo à côté avec Mike Powell, Michael Johnson. Toi, c'était des athlètes qui n'étaient pas connus. Ils ont percé après en 96. Quoi. Ils étaient connus, mais pas autant. Ouais, et là, toi, justement, pas plus tard, il y a 2 semaines, je commençais à regarder tous ces albums et tout ça. Je me dis, c'est fabuleux. Quand tu dis comme ça, quand tu vois la magie des Jeux Olympiques, tu dis, voilà, en gros, tu as l'habitude de voir ces gens-là à la télé, tu arrives au réfectoire, tu as ton plateau et tu vois comment ça s'appelle Jim Poirier, ben voilà, et son plateau, tu te dis, oh, c'est un mec comme moi-même, quoi, il est sur le plateau, il n'y a personne qui porte le plateau, et c'est ça qui est magique, les jeux. Toi.
Ah, mais c'est ça, il n'y a rien de plus beau finalement, il n'y a rien de plus grand ouais. finalement que les jeux pour cette raison. Quoi.
C'est clair.
Ouais. Et je voulais dire aussi par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est vrai que Jérôme, il a deux médailles d'or olympiques, mais il en a fait 4, mais il a 4 médailles d'or olympiques pour la collection des pins.
Ah, c'est vrai, t'étais un dingue d'échange de pins?
Ben, en fait, ouais, à Sydney, comme je pensais que c'était mes seuls jeux, du coup, je suis parti dans le village à chaque fois que je pouvais. J'essayais d'échanger des pins et tout. Et c'est vrai que c'était la mode à l'époque.
Tu les as gardés, tu les as encore, tes pins ou pas?
Non, même pas, parce qu'en plus, tu vois, Jack, il m'en parle, je ne m'en rappelais même plus. Et là, Jack, tu viens de me lancer là-dessus, et ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais c'est vrai, putain, à Sydney, je faisais le tour du village.
Oui, mais tu vas faire comme Arnaud au bout de tout le temps. En fait, tu vas le retrouver, c'est à la FED accroché le truc. Pendant le retour,
j'ai mieux que ça.
Vas-y, qu'est-ce que tu as?
Ben, en fait, c'est marrant en plus parce que c'est une anecdote où Jackson, il est dedans. J'espère qu'il s'en rappellera. Mais ben, en fait, il m'est arrivé un petit peu comme à toi, une petite aventure après la finale de Londres. Donc, on gagne la finale à Londres. On est champion olympique pour la deuxième fois et on rentre au village. Et là, tu vois, instant de lucidité, je me dis, la médaille, je ne la prends pas parce que ce soir, comme je sais que a priori, c'est mes derniers jeux, je ne veux pas la perdre. Donc, je la laisse dans la chambre. Et on commence l'apéro au village, tranquillement, parce que le staff avait une petite garnison de bouteilles. Et donc, il nous offre l'apéro. Et on arrive... 3 heures après, peut-être, au Club France. Mais déjà, on a 8 grammes. On est vraiment, on est à l'envers. Mais comme j'avais laissé ma médaille au village...
Vous buvez.
Écoute, excuse-nous d'avoir été à bonne école. Hein, excuse-nous d'avoir été à bonne école.
Moi, j'étais
parce que vous ne nous avez pas montré que le handball, Jackson, hein, je te le rappelle.
Non, c'était le nez de vache. Alors, pardon, je te dis.
Alors, donc, tu me disais, non, ben en fait, on arrive au Club France déjà bien, bien entamé. Et bien sûr, la soirée part un petit peu en cacahuète, notamment avec les filles du basket. Donc, on commence à faire la fête sur la scène et tout, à chanter avec le micro, etc. Et à un moment où t'es plus lucide, quoi. Et donc, à un moment, je reprends un peu de lucidité. Il est 3-4 heures du mat. J'ai plus de polo, en fait. On s'est arraché les polos, comme des bons handballeurs, tu sais, bien, bien intelligents. Et surtout, j'ai plus mon accréditation autour du cou. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mon accréd? T'as compris, Jack? Je vois ta tête. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mon accréditation? C'est pas possible, quoi. Donc, je fais le tour, je demande si je l'ai pas laissé à quelqu'un et tout, machin. Impossible. Et là, tu dessoules un peu, tu vois, tu n'es pas bien. Parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir rentrer au village. Et finalement, je ne la retrouve pas. Donc, heureusement, j'arrive à négocier. On me dit, bah, t'inquiète, tu vas dormir dans le centre-ville de Londres, dans l'hôtel où sont logés les gens du CNO. Et là, je me dis, ouf, génial. Donc, du coup, j'envoie un texto à Thierry Omeyer. Je dis, écoute, je dors en ville, je ne peux pas rentrer au village, donc prends-moi mes affaires demain matin et on se retrouvera à la gare pour partir à Paris. Et donc, me voilà en route, dans les rues, torse nu. Et qui c'est que je croise en allant à l'hôtel? Jackson.
En allant à l'hôtel.
Là, moi,
je sortais parce qu'en fait, j'allais faire mon petit footing.
Mais oui, oui, il faut préciser, voilà, ouais. Bien sûr.
Tu t'entraînais, bien sûr.
Exactement. Et Jack, il me voit torse nu et tout. Et lui, il avait un petit sachet, tu vois, de fringues, etc., qu'il avait sûrement acheté dans la journée ou quoi. Et du coup, il m'a filé un t-shirt. Il m'a filé un t-shirt pour pas que j'arrive.
D'ailleurs, tu me l'as pas rendu, ça.
Non, je t'ai pas rendu. Mais parce que il valait mieux pas. Il était pas bien.
Et pas à ta taille.
Et donc, si il était à ma taille, mais disons que j'étais un petit peu malade après en fin de matinée. Bon, donc, j'ai préféré te le rendre propre. Et donc, du coup, je me retrouve à être logé donc à l'hôtel du CNO. Bien évidemment, je suis complètement carbo, donc voilà, je suis malade, etc. Et le lendemain matin, je me fais réveiller par le téléphone vibre, et c'est Michel Barbeau, notre manager, qui me dit: Jérôme, on récupère tes affaires, on se retrouve à midi à la gare. Je dis: ok, pas de problème. Donc, moi, vite fait, je prends une douche, machin, je remets les affaires de la veille, enfin de la veille du matin, et me voilà parti en taxi pour arriver à la gare de Londres. Je descends du taxi à la gare. Les premières personnes que je vois, c'est Joël Delplanque et sa femme, le président de la fédération de handball, qui me dit: mais Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui explique. Elle me dit: ah, ben, il n'y a pas de souci et tout, viens, on te paye un café en attendant que les autres arrivent. Et donc, du coup, je me retrouve à boire un café avec les fringues qui sentaient encore la soirée de la veille. Et là, les mecs arrivent, Thierry me file mes affaires, et je pars vite aux toilettes me changer. Donc, je mets vite la même tenue que tout le monde dans les toilettes de la gare et je ressors avec mes affaires. Et là, tu ne devineras jamais, mais je fais 5 mètres et je tombe nez à nez avec TF1, la caméra, le micro. Et le journaliste qui me dit: Jérôme, vous êtes en direct pour le 13h en France. On voudrait avoir vos impressions sur ce deuxième titre olympique et surtout sur la soirée d'hier. Et là tu n'es pas bien, quoi. Parce que tu te dis: non, mais je ne vais pas leur raconter quand même que j'ai perdu mon accred et que j'ai pas dormi au village. Donc, je brode et tout, machin, tu vois. En plus, j'étais encore un peu amoché de la veille. Et il me pose 2-3 questions. La dernière question qu'il me pose, il me dit: et alors, il paraît que vous n'avez pas dormi au village parce que vous avez perdu votre accréditation. Oh là là. Et là, je me décompose, mais en direct devant la caméra. Et là, j'acquiesce, je dis: ben oui, finalement, j'ai été logé par le CNO. Et bon, voilà, j'ai un peu trop fêté la médaille d'or hier soir. Donc, ben, effectivement, je n'ai pas pu dormir au village parce que j'avais perdu mon accréditation. Mais bon, je suis content, j'ai retrouvé mes coéquipiers. Ils m'ont ramené ma médaille et mes affaires. Donc là, on va pouvoir faire la fête maintenant à Paris.
Tu t'en es pas si mal sorti, finalement.
Je m'en suis super bien sorti.
Tu tombes sur Jackson, tu arrives à te changer au bon moment.
Voilà. Non, mais un truc incroyable. Mais voilà, dormir sous un pont.
Je voulais te le dire. En fait, je l'ai toujours qu'on accrédite.
Et voilà, tout s'explique.
Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me l'a volé pour me faire la blague.
Mais c'est moi, je l'ai là, je l'ai encadré d'ailleurs.
Moi, j'ai pas donné d'anecdotes, on en a plein, et des soirées, des trucs, parce que en général, tu restes 2-3 jours. Enfin, nous, en fait, on part avant la fin parce que ça se finit un peu avant. On reste 2-3 jours, moi, c'est pareil, dans quelques fiestas, mais on vous en avait parlé des fiestas, c'est très bien, Jérôme, ton anecdote est parfaite. J'en garde sous le pied pour les prochaines. C'est très bien. Moi, pour la petite finale, j'ai battu Federer, qui était tout jeune, tu sais, qui était tout jeune. Il avait pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour dire qu'aussi, le tennis a eu du mal à se faire sa place au jeu, c'est une réalité, j'en ai conscience. Mais que pour certains, en tout cas, après, c'est quelque chose de très personnel, c'était quand même quelque chose de très puissant. Et pour un mec comme Federer, de ne pas avoir gagné encore de médaille d'or en simple, c'est un truc qui est encore qu'il est en travers de la gorge. Et moi, je le bats pour la petite finale. Il a 20 ans en petite finale. Il chiale. Vestiaire, il chiale, mais vraiment il en pleure pour dire à quel point c'était fort aussi. Et bon, Le soir même, en revanche, il s'est fait consoler par sa future femme et j'attends toujours un merci de sa part parce que c'est depuis, tu vois, depuis il y a quand même
quatre gamins. T'as lancé sa carrière, en fait.
Depuis il y a quatre gamins, il y a 20 grands chelems, ouais. Et il n'y a pas de merci.
C'est grâce à toi.
C'est grâce à la frustration que tu l'as occasionné.
Zéro, zéro. Humainement, zéro. C'est pas vrai, c'est un bon mec, je déconne. Évidemment, évidemment. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, cette émission va quand même arriver à sa fin un jour ou l'autre, parce qu'on pourrait rester des heures à en parler, mais Jackson, moi, en 2000, c'était Douillet, porte-drapeau, et Jérôme, tu disais que votre sport est progressivement rentré dans une autre dimension aussi, ouais. Par les résultats, mais ça a commencé quand même en 92 avec l'arrivée du handball français quand même, et cette médaille de bronze. C'est un truc de dingue, non, je ne sais pas, c'est tes porte-drapeau, quoi. Et là, quand tu dis le handball, la représentation du hand dans le monde du sport en France, c'est monstrueux, non, c'est fantastique.
Ouais, c'est incroyable.
C'est... Non, moi, je n'arrive même pas, j'ai des frissons quand je le dis. Je me dis, Jackson, c'est monstrueux. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais ça doit être un moment extraordinaire, non, intérieurement, extérieurement. Fin...
Non, c'est magique, c'est magique. C'est magique parce que toi, moi, justement, on peut revenir un peu par rapport à la thème d'être pour le drapeau. Je me rappelle le jour... moins 100 avant les Jeux, en fait, c'était la remise des drapeaux. La remise du drapeau, c'était David qui devait me remettre ce drapeau-là. Je me rappelle, pareil, c'est comme si c'était hier. Tu vois un mec comme David, de l'air que c'est un pote, mais ça, voilà, c'est une admiration devant l'homme, quoi, par rapport à son parcours, par rapport à son charisme, tout ça. Toi, tu dis, voilà. Et quand il me remet le drapeau, il me dit, voilà, en fait, Jack, tu vas vivre quelque chose de fabuleux, c'est grandiose. Voilà, et en plus de sa part, et tu dis voilà, enfin nous notre sport à nous on joue maximum, bon maintenant ça a changé, on joue 10 000 Bercy, 15 000 personnes ou 20 000, tu dis voilà c'est exceptionnel de jouer dans une salle comme ça, et là tu dis voilà tu vas rentrer dans un stade de 100 000 personnes, ouais. Là pour nous c'est une grande découverte, on ne sait pas cet environnement à part de dire voilà tu vas voir un match, tu le mets dessus dans les tribunes. Déjà, il te dit ça, tu vas voir, il faudra savourer ce moment-là, c'est magique. Tu vas être à la tête d'une délégation, tu vas traîner ton équipe, tu vas avoir 300 gars derrière toi, c'est toi qui vas être, leur tirer vers justement cet engouement, tout ça. Déjà, il me mettait la pression, tu vois. moi, 100 joueurs avant. Et là, déjà, tu vois ça, tu dis ça, pareil, tu dis ça. Et juste après la photo, et je me rappelle, il y a le Premier ministre, Guy Dru, qui te dit, qui vient te voir et tout, qui te félicite, qui te serre la pince, qui te dit, voilà, tu as de la chance de vivre ce moment-là, parce que mon rêve, ça aurait été d'être porte-drapeau de la délégation française. Et là où tu dis, waouh, deuxième coup de massue. Deuxième coup de massue, tu vois. Et c'est pour ça, toi j'ai eu cette sensation-là de pouvoir le faire, parce que toi, c'était une pression énorme, hein. Au-delà de la pression quand tu es aux Jeux Olympiques, parce que tu dois, comme on disait tout à l'heure, il faut rester focus dans ton objectif, de ne pas se laisser déconcentrer par rapport à ce qu'il y a autour, mais tu as un devoir à faire. En tant que capitaine de la délégation française, toi, tu dois apporter justement de prendre le temps de la main aussi. Les athlètes qui commencent à faire le jeu, tu forces pas le passage, mais toi, tu t'orientes vers ces athlètes-là pour enlever cette barrière, pour avoir cet échange. En fait, en gros, ça te met encore la pression, mais toi, tu veux de l'investissement encore plus. Et après, bon, ce qu'on a fait, comme disait Jérôme tout à l'heure, ton père en quart, et pour moi, c'est au-delà d'une déception personnelle en tant qu'handballeur. Et là, pour moi, c'était une trahison envers la France, quoi. Donc, je me rappelle, de suite, mon premier interview, j'ai dit, voilà, mais je m'excuse auprès de la France. Parce qu'en fait, en gros, tu vois, j'étais le premier porte-drapeau à casser le maillon. Parce que si tu me regardes, j'en ai fait quatre. 92, Jean-François Lamour, médaille olympique. Pérec, Douillet et moi. Toi, je casse ce maillon-là. Pour moi, j'ai perdu mon devoir auprès de la France, quoi. Je me suis excusé auprès de la France. Voilà, je ne vais pas
Bon, après, non, mais je te rassure, tu étais un magnifique représentant. Je crois que c'est pas. Évidemment, tu as raison. Tu as la médaille à la clé. Tu as envie de. Parce que tu pars
Bien
en
sûr.
mission et que
Voilà,
c'est.
tout à
Tu
fait.
as l'impression
Tout
de
à fait.
porter plus de 60 millions de personnes sur ton dos. Bon, on a eu cette impression, mais la réalité, c'est pas vrai. Hein.
Non, non,
C'est.
non, non,
Non,
non,
non,
je
mais
sais, non,
c'est.
mais d'autant plus que
C'est vrai.
c'est un sport collectif, donc
Ouais,
c'est pas
c'est très
Jackson qui a
bien.
failli, c'est l'équipe.
Non, mais c'est ça, c'est l'équipe. Vous êtes ensemble à ce moment-là. C'est vrai. Mais non, mais je vois très bien l'image et je comprends. Enfin, moi, c'est parce que moi, enfin, c'est pareil. Toi, on a perdu, même s'il y a la médaille de bronze. Moi, j'ai perdu en demi quand je perds, alors que je devais être médaille d'or. En tout cas, je croyais vraiment. J'étais invincible. J'étais Superman à ce moment-là. Je ne comprends pas comment j'ai perdu. Et en fait, c'est la chute, elle est monstrueuse. Enfin, c'est ce que tu dis. Tu as l'impression de tomber du 20e étage. Et c'est d'une violence extrême. Cette violence, elle est terrible.
Tout à fait, oui, justement, mais moi, ce n'est pas que le
Et
handball.
tout,
Là,
ouais.
c'était
T'es le chef
ça.
de toute la
Moi, je.
délégation. T'es tout.
Voilà, moi,
Tout.
le handball, c'était, je dirais, en dessous
Ouais.
de mon contre-perche. Pour moi, c'était le. Ben voilà, c'était le rôle qu'on m'avait donné en tant
Ouais.
que drapeau, en tant que capitaine de la délégation française. C'est la France que j'ai déçue, quoi.
Non, tu l'as pas
Non,
déçu. Arrête. Arrête. Ça m'énerve même
non,
pas quand tu dis
non.
ça, moi.
Non, non, sur le coup
Ah, bien
de
sûr. Ah,
l'événement,
bien
le
sûr.
coup de l'événement,
Ouais.
ouais.
On va finir. Une image qui reste à chacun.
Moi, personnellement, en plus, c'est une image que j'ai souvent vue d'ailleurs dans la presse. Pour moi, l'image que je garde des Jeux pour l'équipe de France de handball, hein, c'est le moment où on est champion olympique à Pékin. On est allé chercher Jackson pour le porter en triomphe, je pense qu'il s'en rappelle. Et si tu veux, on avait le sentiment en 2004 d'être passé à côté de quelque chose de fabuleux, de pouvoir être champion olympique avec ton capitaine qui était porte-drapeau et avec l'icône de ton sport, quand même. Tu vois, qui était notre idole à nous, les joueurs de la génération suivante. Et vraiment, le fait que Jackson ait été présent sur ces JO de Pékin et qu'on ait pu à la fin, tu vois, le porter avec nous et le mettre vraiment au niveau où il méritait par rapport à tout ce qu'il a représenté pour nous et ce qu'il représente encore aujourd'hui. Alors, les nouvelles générations, peut-être, ont moins vu Jackson jouer et ont d'autres références. Mais Jackson était l'image de notre sport au niveau mondial pendant des années. Ça a été notre capitaine et ça a été un fabuleux capitaine et un fabuleux coéquipier qui nous a transmis énormément de valeurs, des valeurs qui, je l'espère, perdurent encore au niveau de l'équipe de France, puisque maintenant il y a son fils. Et du coup, si tu veux, on avait vraiment le sentiment d'avoir fait la passerelle entre 2004 et 2008 et de vraiment dédier ce titre olympique à Jack et à notre sport et que vraiment la grosse, grosse déception qu'on avait pu vivre 4 ans auparavant, ça, elle était gommée, elle était assimilée et que maintenant, on pouvait regarder à nouveau l'avenir avec sérénité, quoi.
Tu m'as filé les frissons, c'est parfait.
Ouais, j'en ai aussi,
Magnifique,
t'inquiète.
c'est monstrueux. Alors, Alison, comme ça, le mot de la fin pour Jackson. Alors, Alison.
Ouais, du coup, moi, l'image que je garde, c'est l'image très, très forte et la communion qu'on a eue avec, du coup, la délégation française sur notre victoire en quart de finale. Parce que, comme j'ai dit auparavant, on a brisé un petit peu, je dirais. Pas la
Malédiction.
malédiction, parce que c'est pas une malédiction, mais étant donné qu'on avait échoué plusieurs fois en quart de finale et que, disons que le scénario, le déroulement du match, quand même, on y retournait fortement. Et on a réussi à inverser la tendance dans ce quart de finale, dans cette prolongation. Et voilà ce qu'avait fait pour notre première demi-finale. Et donc, je nous revois. Je vois déjà la joie, la délivrance d'avoir réussi à enfin le faire, d'avoir mentalement retrouvé les ressources pour combattre un petit peu ça, parce que ma génération, avec les filles, avec nous, les anciennes, bah, on a vécu ces déceptions. Donc, par la force des choses, même si on essaie de le combattre, c'est quelque chose qu'on porte en nous, qu'on portait. Et même si on se battait contre ça et qu'on essaie de sortir de ça, c'est quand même quelque chose qui reste dans un coin de la tête, même si on n'a pas pensé d'avoir réussi à passer ce cap-là. Je pense que c'est vraiment le début de notre épopée, même après sur les années qui ont suivi, sur les titres qu'on a gagnés. Ça a été vraiment le déclic, ce quart de finale. C'est ce qui nous a permis d'écrire l'histoire qu'on est en train d'écrire. Et j'étais très marquée. Je vois aussi là, quand on se tourne vers le public, nos familles, toute la délégation, tout ça, ça a été des moments qui ont été très, très forts.
C'est une belle image aussi, ouais. Ouais. Merci, Alison. Bah, et toi, Jackson, une belle image.
Bah, je vais te décevoir. Moi, je ne vais pas dire mes joueurs, moi. Je suis désolé.
T'as le droit.
Moi, je suis un peu déçu parce que Fernand a enlevé ce que je voulais dire. Justement, en fait, je profite de l'occasion. Voilà. C'est un grand monsieur, c'est une grande dame qui a porté haut et fort le handball français. Je profite de cette occasion aussi. J'ai des chers de poule, c'est la vérité, c'est le cœur. Comme on parle de notre sport, on a toujours, comme vous avez pu comprendre, c'est qu'on a toujours besoin de prouver, de reconnaître nos efforts pour pouvoir exister à notre juste valeur. Et moi, comme je dis, on a la chance d'avoir des garçons et des filles d'être dans les plus hautes marches du sport français, et que nous, on est toujours dans la recherche de la reconnaissance. On a cette reconnaissance, mais par rapport, comme disait Fernand, aux autres pays, dans les autres pays, ils sont plus valorisés le handball que nous. Si on va dire comme les Danois, ils ont le même perf et tout, c'est des dieux, c'est des déesses dans leur pays par rapport à ce que nous, on aurait pu avoir. Et moi, je crie haut et fort, on a la chance d'avoir les garçons et les filles qui étaient champions du monde, champions d'Europe, vice-champions olympiques, champions olympiques. Et ça, c'est un plaisir. Et moi, je vais dire, mon meilleur souvenir à moi, c'est en 2008. En 2008, pourquoi? Parce que j'étais journaliste. J'ai découvert les Jeux Olympiques à l'extérieur. J'étais consultant. J'ai profité des Jeux Olympiques pleinement. Et le jour de la finale, on va dire, on était champion olympique. Moi, je fonctionne comme ça, moi. Je fonctionne comme ça parce que pourquoi on dit en 98, on est champion du monde? Pourquoi aujourd'hui, je vais dire, ils sont champions olympiques? Non. Moi, je dis, on est champion olympique. Et quand on a été champion olympique, je n'ai pas calculé, je suis descendu sur le terrain et j'ai sauté la barrière, j'ai été sur le terrain. Normalement, on n'a pas le droit en tant que journaliste. On n'a pas le droit d'aller sur le terrain.
Mais tu aimes bien sauter les barrières.
Toi, tu as le droit. Toi, t'as le droit.
Voilà, non, mais attends, je n'avais pas vu. Il y avait une dizaine de Japonais qui me couraient après quand je rentrais sur le terrain. Mais comme ils ont compris, enfin, quand j'étais avec les joueurs et tout ça, et en fait, ils ont compris que, voilà, en gros, j'avais pas de tête de truand. Enfin, j'avais une tête de truand, mais j'étais pas un truand. Et voilà, tout ça, pourquoi je voulais dire, voilà, en fait, c'est la reconnaissance de ces messieurs, comme il a dit tout à l'heure. Mais moi, j'étais les voir pour leur féliciter et surtout de leur dire merci. Parce qu'à chaque fois, quand eux, ils avaient toujours ce côté-là de remerciement. Et là, c'était mon devoir à moi de leur dire merci. Merci de nous avoir donné le titre qui nous manquait. Parce que moi, comme j'ai dit, c'est à chaque fois, si on est champion du monde, champion d'Europe, les filles champions du monde, champions d'Europe, et là, il fallait être champion olympique pour avoir cette reconnaissance. Moi, j'ai dit aux journalistes, là, on a gagné tous les titres. Pour avoir cette reconnaissance, c'est peut-être aller jouer contre les Martiens, pour pouvoir avoir cette reconnaissance, d'être meilleure équipe contre les Martiens. Voilà, en fait, ma meilleure Jeux olympiques, c'est... Ce qui me retient le plus, c'est en 2008, c'est d'être sur le terrain et que eux, et normalement, c'était pas moi, mais en fait, j'ai l'impression que c'était moi qui les avais donné cette victoire. Et ça, c'est la reconnaissance de notre sport et c'est ça qui valorise notre sport qui est le handball. C'est qu'on est toujours dans la valorisation de notre progression et de mettre en avant notre sport. Voilà.
D'ailleurs, on a un peu le sentiment que c'était encore notre coéquipier, hein, Jack.
Parce que
ça faisait tellement, tellement peu de temps qu'il avait arrêté que finalement.
Comment? Et j'étais toujours affûté pour ça. Tu te croyais que
ouais, c'est clair.
J'ai dit que c'était un contre.
C'est à moi. Bah, c'est moi qui vous remercie en tout cas là, parce que pour cette petite fin d'épisode frisson. Enfin, avec merci pour vos témoignages. Mais il y a beaucoup de transmission, on le sent. Alors, c'est le principe du sport co, peut-être un peu plus que du sport indiv. C'est certain. Merci pour ces petites anecdotes. Moi, je me suis vraiment régalé. On aurait pu passer, je suis convaincu, beaucoup plus de temps à discuter, mais chacun de reprendre son programme. Et Alison, je crois, a d'autres choses aussi peut-être à faire. Elle nous a déjà consacré beaucoup de temps. Merci mille fois à tous les trois. Et on va les suivre, hein, ces prochains jeux tous ensemble. On va les suivre.
Ah oui.
Hein.
Il n'y a pas de raison.
C'est dans nos veines, hein, ça coule. Hein. Ça reste. Merci, merci Alison, merci Jérôme, merci Jackson.
Merci à toi.
Merci à très bientôt. Merci. Ciao.
Portez-vous bien. Bisous, bisous.
Merci beaucoup. Hein, c'était top. On s'est régalé. Franchement, c'était top. Merci mille fois.
Ciao.
Ravi.